Vous écoutez
RMC.
RMC.
Il a joint les faits.
Les actes faits.
L'acte à la parole plutôt.
Stéphane n'a pas dit Anthony Lopez.
Ça, on parle de gardien de but, hein. On parle pas de chauffeur autoroutier.
Ça fait partie du football de chambrer, mais attention au revers du bâton.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Génération After avec Walid Acharchour, Oussem Loussaïef et Sofiane Zouaoui de Winamax FC. Tout à l'heure, on parlera de Varane, messieurs, à 21h30, pour nous appeler également au 32-16. Cette question, lui qui a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale en équipe de France, va-t-il manquer au bleu? On en débattra. D'abord, Marseille au programme. L'OM est-il désormais dans l'obligation de finir au moins deuxième de Ligue 1? Marseille l'est depuis hier soir, ce qui n'était plus arrivé depuis la 9e journée. Un point de plus que le Racing Club de Lens. La série, 7 victoires sur 8 matchs en Ligue 1. Invaincu depuis octobre dernier, oui, non, en Ligue 1.
C'est pas l'OM, c'est pas possible.
C'est l'OM.
Non, c'est pas l'OM.
Ça te fait mal. Hein.
Rendez-nous l'OM.
Une nouvelle profondeur de
crise.
Une nouvelle profondeur de banc, 3 recrues. On parlera tout à l'heure notamment de Malinovski, qui est un sujet qu'on a peu évoqué pour l'instant dans l'after. Ce que vous avez pensé de ces 3 premières sorties avec l'Olympique de Marseille? Parce qu'on dit, tout le monde dit, 3 grosses recrues à Marseille. Le dernier arrivé, on ne sait pas vraiment encore comment il va s'adapter. Le premier arrivé, Malinovski, on va voir, on va lui laisser quelques matchs encore. Pour l'instant, il n'y a rien d'incroyable.
Après, sur le papier, ça reste quand même 3 recrues.
Oui, on est d'accord.
Si on m'avait dit il y a 2 ans que l'Olympique de Marseille pourrait aller récupérer un joueur de la qualité d'Unai, de Malinovski qui était à l'Atalanta et un gros prospect portugais à 30 millions.
Unai qui était à Avranches il y a encore 2 ans.
Après, est-ce que ça va réussir?
Voilà.
Ce sera autre chose.
Alors, vous nous appelez, l'OM est-il désormais dans l'obligation de faire top 2 cette saison en Ligue 1, supporter marseillais? Le 32-16 est ouvert, Max, c'est là au standard. Je commence donc avec Sofiane. Commençons avec toi, tiens.
Sur cette question précise,
oui.
Écoute, moi je suis partisan de dire oui. Après, l'obligation, c'est un mot un petit peu. Voilà, il faut y aller. Hein, c'est un mot de wording, comme
vas-y,
on dit.
Sofiane,
mais on en revient, oui, moi je dis oui, l'obligation, parce que je crois un truc très important dans le process de Longoria. Je me rappelle, on avait fait il y a quelques mois un avis sur Pablo Longoria et sur la gestion des transferts et des mercatos, qui pour moi est une gestion unique. C'est-à-dire que, évidemment, que tu en avais peut-être besoin à l'époque, mais il y a quand même une grande lessive de joueurs. Je crois que j'ai compté un petit peu en 5 mercatos qu'il a réalisé, il y a pratiquement une trentaine de joueurs qui ont tourné entre les arrivées et les départs, ce qui est énorme. Et ce qui est fou aussi, c'est que malgré ce turnover important, tu te retrouves avec une saison où tu termines deuxième, donc c'est positif. Après, il y a des accros en Europa League et puis cette saison en Ligue des Champions. Mais ce que je veux dire, c'est que ton projet, il est quand même sur une réussite malgré ce turnover. Là où je te dis que pour moi, il y a une obligation de finir deuxième, c'est que pour moi, avec ce mercato hivernal, il rentre dans une nouvelle phase. Il rentre dans une nouvelle phase parce que tu as acheté 3 joueurs sur des postes ciblés. Tu as acheté 3 joueurs pour du moyen long terme, ce qui n'était pas forcément le cas sur tes premiers mercato. Tu as acheté 3 joueurs chers quand même, il faut le préciser.
Oui, investissement.
Et voilà, bien sûr, tu as vendu un peu plus que d'habitude, mais tu as acheté 3 joueurs chers et tu as surtout un peu nettoyé les angles. Tu as des joueurs que tu as fait partir, Isaac Touré notamment, Luis Suarez notamment, Gerson. Et aujourd'hui, tu as un effectif avec 22 joueurs. Et seulement 3 joueurs qui sont pas vraiment là ou qui sont en prêt avec option d'achat. Avant, tu savais pas si lui il appartenait à l'OM, si lui il allait rester. Aujourd'hui, je trouve qu'on se rapproche de plus en plus vers un effectif fixe. Et pour moi, tu rentres dans une nouvelle phase. Et cette nouvelle phase doit être matérialisée pour moi par l'obligation de finir deuxième. Précisons un truc incroyable parce que j'ai regardé les stats. L'OM, ça fait depuis le début des années 90, donc les titres de champion, qui n'ont pas enchaîné 2 top 2 d'affilée depuis les années 90. Donc aujourd'hui, je trouve que symboliquement et même dans la cohérence de ton projet et financièrement, oui, ils ont l'obligation de finir 2 pour moi.
Tiens, on va écouter Pablo Longoria tout de suite. La question lui a été posée par l'excellent Florent Germain,
bien sûr.
En conférence de presse, une question RMC.
Ça ne peut être que lui.
Est-ce que vous jouez le titre cette saison, Pablo Longoria? Écoutez.
C'est pas l'intention de penser tous les temps dans un titre. C'est qu'on avait dans la tête, dans le moment que c'est fini le mercato, c'était de gagner à Nantes. Pour nous, dans ces moments que la dynamique est positive, il y a des messages qui sont très importants. Humilité, c'était une semaine de massage. Ah, le mercato se passe bien, massage. Dans les moments qu'il y a minimum de relaxation dans cette équipe, on n'arrivera pas à gagner des matchs parce qu'on est une équipe que notre force, c'est le collectif, c'est la volonté, c'est l'intensité, c'est l'identité du jeu. On doit rester dans l'humilité et on doit penser seulement au prochain match. Dans les moments qu'un club perd l'humilité et perd sa dimension, c'est toujours un problème.
Voilà, et il reste prudent match après match, bien sûr. Ce qui est marrant, c'est que je regardais la conférence de presse sur la chaîne Twitch de l'OM, tu avais tous les commentaires des supporters marseillais.
Ils sont aussi dans l'humilité.
Pablo, full love, évidemment, et surtout dans l'humilité. Ouais. Ils parlent maintenant comme un président ou un entraîneur. Non, calmons-nous, le titre non. Alors qu'au fond.
C'est la crainte, Nico.
Alors qu'au fond.
D'ailleurs, en termes de.
T'es obligé d'y penser quand t'es supporter de l'OM.
Il a raison. Il a raison, Pablo Longoria, d'être dans l'humilité. Maintenant, je suis persuadé que les joueurs, l'entraîneur, et le président pense à qu'une chose, c'est le titre. Et je pense que l'Olympique de Marseille doit penser au titre. Le dire, c'est autre chose. Oui. Mais être à 5 points du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle,
ce Paris Saint-Germain-là,
qui titube dans le jeu, qui vient de perdre contre Rennes, qui vient de perdre contre Lens, qui a perdu des points contre Reims à la maison, qui vient de perdre Kylian Mbappé pour 3 semaines avec une équipe de l'Olympique de Marseille qui a fait un recrutement, on l'a dit tout à l'heure, sur papier, qui reste important. Avec Unai, Malinowski, avec Vitinha qui va être incorporé, ouais. Avec un match par semaine, hormis la Coupe de France bien évidemment, mais un match par semaine sans Coupe d'Europe, si l'Olympique de Marseille, parce que l'appétit vient en mangeant, Nico, moi j'ai beaucoup critiqué la direction que prenait l'Olympique de Marseille en début de saison, mais tout ce qu'ils font sur la dynamique, ça doit être valorisé. Et l'Olympique de Marseille doit y aller, doit vraiment se donner les moyens de ses ambitions. Et j'ai l'impression que le mercato, moi, pour moi, a été fait pour l'année prochaine, mais aussi pour se dire peut-être qu'il y a un coup à faire sur ces 6 prochains mois.
On a beaucoup analysé de manière structurelle là, depuis le début du talk, mais il y a aussi une réalité, il en parle aussi le président Longoria, c'est que la production est exceptionnelle. Il faut l'avouer, il faut l'admettre.
C'était un peu moins bien contre Nantes sur la première
mi-temps. C'est vrai, mais ce que produit le club depuis quelques mois, ça me donne de, comme tu dis, l'appétit vingt ans mangeant. J'ai envie de voir plus, j'ai envie de les voir jouer presque tous les 2-3 jours. Alors oui, c'est énergivore, oui, leur style de jeu peut jouer dans les batteries des joueurs marseillais, mais c'est exceptionnel ce qu'ils produisent. Alors il y a du déchet en général quand tu produis beaucoup. Moi je suis désolé, un joueur qui est typique de tout ça, c'est Nuno Tavares. Il y a énormément de déchets dans ce qu'il fait, mais la générosité avec
les récompensés au bout,
mais c'est incroyable. Moi ce que propose ce club là, tu fais rentrer 4 joueurs contre Nantes d'un coup, et ces 4 joueurs sont Guendouzi, Payet, Klos et Unai. Non mais c'est eux.
Mais aujourd'hui l'effectif qu'a l'Olympique de Marseille pour jouer sur un tableau comme le championnat de France, mais il est pléthorique.
Et dans le style de jeu, tu n'as aucun impact. Bien alors que tu as changé le profil des joueurs.
Évidemment, c'est ça qui est fort. Tu vas changer Unai pour Guendouzi, tu vas changer Veretout pour.
Non mais juste Nico, j'ai fait une petite erreur. J'ai dit depuis les années 90, ils ont fait premier, deuxième, 2008-2011, mais ils l'ont fait qu'une fois, donc depuis les années 90. Merci à Coach d'émission sur Twitter qui me le répète.
Je vais accueillir Benoît, supporter de l'OM au 32-16. Salut Benoît.
Salut à tous.
Salut. Bienvenue dans Génération After. Heureux de t'accueillir, Benoît. Alors, tu le dis ou pas, franchement? Est-ce que tu vises le titre de champion?
Ah, moi, je pense que j'ai envie de viser le titre, clairement. Ah, c'est la saison ou jamais. On a un PSG qui est plus faible que ce qu'il n'a jamais été ces dernières années. Nous, derrière, on monte en puissance. Comme vous disiez tout à l'heure, la production de jeu, elle est magnifique. Je trouve que dernièrement, on voit des matchs de plus en plus aboutis. Plus peut-être qu'un peu plus de réalisme, en espérant que Vitinha soit peut-être justement ce qui nous manquait. Mais vous l'avez dit vous-même, Unai vient d'arriver, il rentre au bout de 3 minutes, il est déjà magique. Enfin, c'est à peine incroyable ce qu'on voit en ce moment.
C'est vrai que Marseille est sur un nuage, c'est hyper fluide. Et bon, ce qui s'est passé hier avec Unai, même si Jérôme Rotten dit qu'il a une chance maximale sur son but, quand même.
Oui, on a le droit quand même d'apprécier le premier crochet et la finition. Et puis, on connaît les qualités d'Unai, notamment sur cette capacité à pouvoir jouer poste de numéro 8, un peu plus haut, le pressing, le coffre. Moi, j'ai.
Il va falloir gérer cet effectif aussi.
Mais si la tête.
Quand tu dis gérer,
si la tête suit pour Unai, moi, je me fais vraiment, vraiment pas de soucis sur ce joueur-là. Mais pour revenir très rapidement sur les derniers matchs, en plus, c'est que on a dit la production en 2023 reste exceptionnelle, mais même quand ça va mal, même quand c'est un peu moins bien, tu prends la première mi-temps contre Nantes, tu prends la première mi-temps contre Monaco, t'as cette espèce de baraka, cette espèce de baraka contre Monaco où les 30 premières minutes, Monaco fait un match exceptionnel au Vélodrome. C'est l'équipe qui met le plus en danger l'Olympique de Marseille, et t'as Ben Yedder qui décide de mettre un piqué, t'as Van der Sun qui décide de vendanger, et derrière, en deuxième mi-temps, t'as cette possibilité de revenir dans le match et de même
peut-être le gagner. Donc il y a même ça, cette force de caractère, cette capacité à avoir un petit peu ce, voilà, cette réussite. Ouais. Mais la réussite aussi, ça se cherche. Et donc sur la prochaine vague de matchs, tout à l'heure on en parlait pour le Paris Saint-Germain, mais si l'Olympique de Marseille fait un gros coup contre le PSG, sincèrement, ça te donne des envies. Et moi, je vais devenir de plus en plus exigeant avec cette équipe de l'Olympique de Marseille, parce qu'avec ce qu'ils produisent et ce qu'ils ont en magasin. Et le calendrier, parce que Rennes va jouer en Europa League, parce que Lens est un peu moins bien, ils n'ont pas le même effectif, parce que Monaco va jouer en Europa League aussi, et que le PSG va jouer contre le Bayern, ça va être l'équipe la plus fraîche du haut de tableau, et il va falloir en profiter pour l'Olympique de Marseille.
Benoît, tu veux rajouter quelque chose ?
Oui, moi je veux rajouter une autre chose. Vous avez fait beaucoup de débats sur le PSG en disant qu'il n'y avait aucune progression, voire des régressions de joueurs, et nous on a l'impression de l'effet inverse. Est-ce que vous avez vu le niveau de Balerdi par rapport au début de la saison ? C'est assez fou de voir que ce joueur, qui n'a jamais convaincu depuis qu'il est arrivé, est à ce niveau-là.
Alors, bah, Balerdi, je me bats avec Kevin Diaz toutes les semaines pour lui dire que quand même il a un truc, ce joueur. C'est pas Virgil van Dijk, mais qu'il a quand même un joueur. Moi on me dit que Balerdi il a aucune qualité. Moi je trouve qu'il progresse sous Tudor. Et que déjà, même l'année dernière, sur les trois premiers mois, il y avait, même s'il y a des sauts de concentration, mais il est très jeune encore, Balerdi, il a 22-23 ans. Je trouve qu'il est de mieux en mieux. Et hier, il fait un excellent match contre Nantes.
Hein. Et là où tu as raison, Benoît, et c'est ce qu'on dit très souvent dans Génération After, c'est que l'objectif premier, selon moi en tout cas, et même on en avait déjà discuté quand on avait parlé de Tudor, c'est l'objectif premier d'un entraîneur, c'est de trouver et d'aller chercher la quintessence de ses joueurs. Et c'est vrai que lui, il le fait à merveille. Il fait progresser et puis il fait jouer les joueurs sur leur qualité. Très important.
Benoît, merci d'avoir fait le 32-16. Tu reviens quand tu veux, évidemment. On va prolonger sur Marseille. Bien sûr, on a des appels. Yacine sera là avec nous également. C'est parti entre le Real en Ligue. C'est important pour le Real, hein, qui est à 8 points avant ce match du Barça. Match en moins. Real Valence 0-0 après 7 minutes de jeu. Je vous rappelle la composition quand même. C'est intéressant. Camavinga qui est latéral gauche. Ce soir, Modric, Kroos, Ceballos, le milieu à 3. Asensio, Benzema, Vinicius devant. Et puis la Juve joue également ce soir. Un quart de finale de Coupe d'Italie face à la Lazio, 0-0 après 10 minutes de jeu. Je regardais si Rabiot était bien titulaire.
Et Pogba, il joue pas du tout.
Pogba, ça sent mauvais.
Ouais. Absence sur blessure.
Allegri, il a dit que pour lui, sa meilleure forme, ce serait dans 2-3 mois.
Ah, je croyais en, d'accord, 2-3 mois.
Ouais, sa meilleure forme.
Donc en avril, quoi.
Il va peut-être rejouer d'ici là, mais que pour lui.
Il sera 100% d'ici le mois d'avril. Allez, on prolonge sur Marseille. Est-ce que Marseille doit avouer qu'il joue le titre absolument cette saison ? Restez avec nous. Génération After sur RMC, 21h13. À tout de suite.
RMC, 20h22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Walid Acharchour, Sofiane Zouaoui et Oussem Loussaïef, on est ensemble jusqu'à 22h. À 22h, Gilbert et Daniel prendront le relais dans un lieu insolite, on n'en dit pas plus. Restez avec nous sur RMC. Marseille est-il désormais dans l'obligation de faire au moins deuxième du Ligue 1, voire plus? Vous l'avez compris, on parle de titre également. Yacine est avec nous, supporter marseillais. Salut Yacine.
Bonsoir à tous.
On va t'accueillir dans Génération Yacine. After. Yacine, alors, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu te caches, toi aussi, ou pas ? T'es un président de Ligue 1 ?
Non. Moi, je dis les choses comme il faut. Eh bien, écoutez, franchement, là, il ne faut pas se cacher. Il faut dire les choses. Moi, je pense que Marseille, là, il faut vraiment dire les choses haut et fort. On joue le titre. Paris, moi, cette année, je pense qu'ils sont plus que prenables. Si on ne joue pas le titre maintenant, ben, c'est bon, c'est pas la peine. Il faut arrêter, il faut passer à autre chose. Il faut jouer le maintien, il faut jouer autre chose. Mais là, il faut vraiment... Là, je pense qu'on n'a pas eu ces armes depuis vraiment... Bon, je vais aller vraiment loin depuis l'époque de Deschamps, 2010. Depuis l'époque du titre, justement. Je n'ai pas ressenti cette chose-là depuis cette époque-là. Donc, moi, pour moi, maintenant, il faut dire les choses. Si cette année, on ne joue pas le titre à fond et qu'on ne le remporte pas, là, il y a un gros problème.
Il y a l'importance également, Yacine, de ce match de Coupe de France. Hein. Alors, c'est symbolique peut-être, même si à Marseille, on n'a pas gagné la Coupe de France depuis plus de 30 ans. Si tu bats Paris au Vélodrome, ça va plus que lancer tes trois derniers mois en Ligue 1, certainement.
Non, moi, comme je disais, il va y avoir deux confrontations là, contre Paris. C'est minimum une victoire.
Sans Mbappé.
Hein. Ouais, sans Mbappé, sans Ramos. Hein. Il y a, en face, il y a beaucoup de casse. Il y a pas, la casse, c'est pas le mot vraiment qu'il faut employer. Mais en face, en fait, moi, ce que je disais tout à l'heure, Adri, c'est que le problème maintenant, le problème, c'est un problème pour Paris, mais pour nous, c'est pas un problème. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en fait, il manque quelque chose à Paris. Je sais pas, après, voilà, je suis pas supporter du PSG, mais moi, je pense qu'il y a quelque chose, je sais pas, sais pas si c'est les joueurs, je sais pas si c'est l'entraîneur. Il y a quelque chose, je sais pas, comme il disait tout à l'heure Walid, Mbappé, bon, après moi ça m'intéresse pas de parler du PSG, mais voilà, c'est vrai que j'écoute un peu et c'est vrai qu'il a pas tort Walid, ce qu'il disait tout à l'heure. J'ai l'impression que, je sais pas, y a pas, je vais pas dire l'amour, nanani, nanana, ça c'est un autre débat. Mais je pense qu'il y a là vraiment ils sont prenables sur tous les aspects. Sur
ouais, c'est le mot. Les gars, attention Paris. Si Paris met plus d'intensité, hein, ah oui. C'est pas gagné. Hein.
Ah oui.
Paris doit
oui,
marcher voilà. Sur tout le monde en Ligue 1.
Les enfants, pas très facile.
Pour l'instant, il faut être, attention.
Mais pour l'instant, ils marchent sur très peu d'équipes. Oui. Le PSG.
Faut qu'ils aient conscience. Tout à l'heure, on parlait de bascule avec le mercato. Moi, j'attends aussi une bascule sur des matchs symboliques. Évidemment que sur les saisons, ils finissent très bien l'année dernière deuxième, et puis cette saison, ils sont très bien lancés pour faire top 2 aussi. Mais il y a des matchs symboliques qu'ils ont manqué l'année dernière. Moi, j'ai encore en travers de la gorge le match contre Nice en coupe où tu as la possibilité d'aller te faire une finale alors que le PSG n'est plus dans la compétition, ils sont éliminés. Tu as les matchs en Europa League, Galatasaray, c'est un match aussi bascule, le match face à Feyenoord.
Il y a nous contre Reims aussi en Ligue 1, je me rappelle.
Mais moi, je te parle vraiment de gros adversaires et d'adversaires symboliques. Même cette saison, le match face à Tottenham, ils peuvent te faire basculer dans autre chose. Il manque un truc à Marseille, c'est le petit match bascule face à un gros ou symbolique, et là quand même t'as les deux avec le Paris Saint-Germain, tu peux les sortir de coupe, leur mettre la tête sous l'eau avant le match face au Bayern et toi te faire peut-être un petit kiff sur une coupe et jouer toujours le top 2. Donc il manque encore ça, je trouve, et là c'est le bon moment.
Je pose une question comme ça: qui a le meilleur banc aujourd'hui entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain?
Je pose la question.
Non, c'est une très bonne question.
On répond PSG comme sur les années d'avant. On répond PSG tout de suite là, maintenant.
Non,
comme
mais tu as eu le silence qui a accompagné ta question.
Voilà,
c'est pas évident.
Non, mais après, c'est toujours dur ces comparaisons. Si je te mets Kitiqué du côté de l'OM et Kitiqué il sort de banc, c'est un gros. Ouais, tu vois, c'est pas la même chose. C'est pas le même contexte.
Alors, je vais pas parler de qualité de joueur. Je vais parler de rendement.
Oui, de rendement, oui.
Oui, d'accord. Le banc est plus impressionnant. Oui. Mais le banc de Marseille hier, par exemple, Tudor fait entrer Klos, Guendouzi, Unai, Payet.
Oui, c'est pas mal. Voilà.
Quelle entrée d'Unai, hein.
Oui, aussi.
Non, mais c'est quand même problématique.
Après, parce que si à l'OM, je te dis, tu fais rentrer Soler et Kitiqué, tu vas me dire, c'est quand même pas mal, tu vois.
Paris, hier, entrer Kitiqué, Renato, Zaire Emery et Bernat.
Oui, mais c'est pas que je te parle de rendement.
Ça se vaut.
Mais c'est quand même problématique parce que là, on est sur Marseille. Mais ça montre aussi qu'il y a une opportunité pour eux et à eux de la saisir. Et peut-être que dans trois semaines, on revient ici sur ce plateau et on dit, l'Olympique de Marseille a été décevant. Et Paris a fait le boulot et ce serait logique, mais c'est quand même un gros camouflet de se poser ce genre de questions quand t'es le Paris Saint-Germain et quand t'es supporter du PSG, de se dire que l'Olympique de Marseille est capable de d'incorporer des joueurs qui ont un meilleur rendement avec un meilleur collectif.
Il va faire des choix maintenant, c'est aussi coach, la nouveauté pour Igor Tudor, c'est faire des choix au départ, hein. Après, parce que là il a une abondance de biens qu'il n'avait pas il y a encore un mois.
Moi je trouve que le truc des choix, ça a toujours été le cas depuis l'arrivée de Longoria. Il y a tellement de joueurs qui ont été recrutés, même on réfléchissait sur la profondeur de banc, même à l'époque Sampaoli, je m'en rappelais, on se demandait mais est-ce qu'il a une assez grosse profondeur de banc,
t'as jamais eu un meilleur effectif,
un meilleur effectif, mais je pense que c'est dû au travail d'Igor Tudor. Oui. Ça aussi, il faut le mettre en avant. Mais je pense que c'est ce côté profondeur, etc., il a toujours existé du côté de l'OM. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, tu as quand même dégagé des angles sur des joueurs qui ne servaient à rien. Aujourd'hui, tu as vraiment 22 joueurs de qualité.
Tu démarres contre Nantes avec quand même Guendouzi sur le banc. Alors, moi, je ne suis pas un grand fan de ce joueur aussi haut sur le terrain, mais tu démarres avec Guendouzi, avec tout ce qu'il représente au sein de l'effectif de l'OM.
T'as Bailly qui est suspendu.
Exactement.
Donc,
il faut faire des choix. Ça va être
Harit qui est blessé,
Klos qui est sur le banc. Attention,
l'effectif, il est à la hauteur de Marseille, hein, bien évidemment. Quand tu compares par rapport à l'année dernière, les solutions sur le banc que tu avais, c'est quand même très différent. Et l'année dernière, faut pas oublier que sur la deuxième partie de saison, tu as des matchs entrecoupés avec la Coupe de France, avec la fameuse Conference League, notamment. Là, tu n'as rien. Donc, tu as quand même. T'as quand même une opportunité.
Bravo Longoria, qui est en conférence de presse également aujourd'hui, hein, qui a la question qui a été posée. Est-ce que vous mettez pas en danger financièrement? Il a dit non, on est dans la même situation qu'au 31 décembre 2022. On parle de très gros transferts pour Vitinha. Il a rappelé ce qu'on a déjà dit dans l'after. C'était un transfert lissé sur 4 saisons et demie. Il faut aussi regarder le salaire, qui est pas non plus un des plus gros salaires de Ligue 1.
Ah, le lissage maintenant aujourd'hui dans le football.
Il est dans la deuxième catégorie des salaires.
La Ligue des Champions leur apporte à peu près 25 millions d'euros. Et il y a un autre truc qu'il faut dire, et que c'est pas du tout une critique. Il faut que, quand on dit ça du côté de l'Olympique de Marseille, Marseille, des supporters, faut pas qu'ils le prennent mal, mais en fait, ils ont un actionnaire qui comble les trous en fin de saison. Ça aussi, c'est important à préciser. Ouais. C'est pour ça que les passages des NCG se passent plutôt bien. C'est parce qu'il y a des trous en fin de saison et qu'il parvient à les combler. Donc, il y a le bon travail.
Attention au fair play financier, parce que l'UEFA regarde les comptes de Marseille aussi.
Bien sûr, bien sûr.
Ils ont déjà été sanctionnés.
Parce que le fair play financier ne prend pas en compte quand leur propriétaire remet au pot.
Exactement.
Mais c'est quand même important de le préciser que Longoria travaille bien, mais il a quand même une assise financière qui lui permet de faire ce qu'il fait aussi. Voilà, c'est simplement ça.
Yacine, comment tu imagines le 11 idéal de l'OM dans cette deuxième partie de saison? Parce qu'il y a du choix là.
Ben ouais, il y a du choix, mais franchement, moi j'attends de voir Vitinha. La question là, c'est de voir Vitinha, c'est vrai. C'est... Après voilà, il y a des vidéos, il y a tout, mais voilà, est-ce qu'il va correspondre avec ce 11? Parce qu'on a Alexis Sanchez, ça ressemble un peu au profil d'Alexis. Ça peut faire mal, comme ça peut surprendre, comme ça peut ne pas marcher, quoi. Après, je sais pas.
Vitinha, moi, je connais pas, donc.
On va voir. Voilà, évidemment, pareil, sur les montages vidéo qu'on a vus, c'est spectaculaire.
On a vu que des highlights et en ce moment, mais tout le monde, même toi, Nico, t'aurais pu être spectaculaire sur un highlight.
Je rappelle que Franck Sergio était capitaine de Braga également.
Oui, c'est vrai.
Et on a vu des vidéos quand il est arrivé à Bordeaux.
Oui. Après, c'est quand même.
Non, mais je plaisante. Nico, je pense un peu le trait, t'as raison.
Il est traumatisé. Et un traumatisme.
Mais d'ailleurs, Braga n'est pas détenu en partie par le PSG.
Si. Par actionnaire, minoritaire, mais tout de même.
Dilé par Antero Henrique. Donc en gros,
c'est Henrique.
Marseille, qui a fait le deal, Marseille a donné de l'argent au Qatari.
Mais en partie, attention.
Belle alliance.
Ils ne sont pas majoritaires, les Qataris.
C'est 20, autour de 20%, je crois.
C'est 22-23%, je crois.
Par contre, Malinowski, on connaissait un peu plus quand même.
Alors vas-y.
Et c'est vrai que pour l'instant,
c'est trop tôt, les gars.
Oui, c'est trop tôt, mais Malinowski, on en parlait souvent avec Johan Crochet. C'est pour moi un très bon joueur, hein, avec ses qualités. Mais pour moi, c'est beaucoup plus un impact player, un joueur qui rentre, qui sort du banc et qui fait les différences. Il a une grosse qualité de pied sur coup de pied arrêté, notamment il dégaine à une grosse vitesse, à une grande vitesse, pardon.
Il m'a fait marquer d'ailleurs sur le coup français.
Exactement. Maintenant, moi, Malinowski, ce qui me dérange un petit peu,
tu le mets pas titulaire.
Non, c'est que dans la création, c'est pas pour moi son domaine de prédilection. C'est pas là où il est plus fort dans les choix de jeu. Souvent, des fois, quand je regardais l'Atalanta, je me disais, là, il fait le mauvais choix.
Il joue à l'envers.
Là, il fait. Mais par contre, il est capable, là, à tout moment, de
débloquer une situation.
Voilà, de débloquer une situation, d'allumer la mèche, etc. Donc,
Après, pour être très basique sur ce recrutement, en fait, tu te dis que c'est le remplaçant, en nombre de Luis Suarez. Et en fait,
c'est pas le même profil. Là-bas.
Non, c'est pas le même profil, bien évidemment. Mais tu gagnes en qualité. Quand même.
Oui. Après, Malinowski, normalement, qui jouait la Ligue des Champions avec l'Atalanta l'année dernière ou il y a deux ans, où jouait le titre.
Et puis il y a un truc aussi que
arriver à Marseille, ça reste quand même normalement en fort de poids.
On peut préciser aussi par rapport
à Longoria.
Il faut
pas oublier.
À Longoria, les achats et sur ce type d'achat, Malinowski, tu vas le chercher à l'Atalanta quand même. Tu récupères un joueur à 32 millions d'euros du côté de Braga. Il y a aussi un truc, il y a un message qui est envoyé par le président.
On lutte,
c'est
quoi.
De dire qu'aujourd'hui, on est là, on est dans la cour avec vous, on n'est pas des petits, et ça, même, bon, évidemment, sur le travail, ça se jugera sur le terrain, mais ne serait-ce que symboliquement par rapport aux supporters de l'Olympique de Marseille, où tu vois des sommes incroyables lancées sur le marché des transferts, que ce soit en France ou à l'étranger, l'OM, aujourd'hui, c'est un club qui est capable de faire la guerre économique, avec évidemment pas Chelsea, mais avec certains clubs intermédiaires, et ça, c'est important juste pour le message envoyé pour le moyen terme.
Oui, puis c'est aussi la conviction, les arguments pour attirer un joueur à Marseille au Vélodrome. C'est Unai qui l'a dit. Hein.
Ouais.
Amine Harid est venu le voir pendant le Mondial, dans sa chambre. Il lui a dit, viens à Marseille,
compte,
top
évidemment.
Projet, super entraîneur, tu vas progresser. Ça aussi a achevé de le convaincre certainement. Yacine, je te pose une question. Tu préfères battre le PSG en Coupe de France ou en Ligue 1 ce mois-ci?
Ligue 1. Après, bon, c'est pas bon pour moi. Je veux dire, maintenant, vu que vraiment c'est le titre et le titre, je vais répondre en Ligue 1. Après, c'est vrai que la Coupe de France, c'est quelque chose aussi. On ne peut pas négliger la Coupe de France. Au contraire, mais...
T'aurais dû dire le premier match. Parce que si tu les bats le premier match,
tu les tues.
Et tu vas aller gagner le deuxième.
Après, tu peux dire les deux.
Moi, ce que je disais tout à l'heure, je disais franchement, là, maintenant, il faut voilà, j'espère gagner les deux matchs. Qu'on gagne les deux matchs.
Après, on espère quand même, enfin, moi, de mon côté, hein. Mais j'espère pour la Ligue 1 et bien évidemment un sprint avec un suspense.
Ah oui.
Mais j'espère aussi que le Paris Saint-Germain va à un moment donné se réveiller, parce que continuer à proposer cette bouillie foot et se faire marcher dessus comme on est en train de le prédire contre Marseille, ce serait quand même une immense catastrophe. Si on nous explique que l'Olympique de Marseille va battre deux fois le Paris Saint-Germain à la maison, ce serait quand même très très problématique
anormal,
pour le PSG.
Tu peux dire anormal.
Ah non, mais vraiment, vraiment.
Ouais. Merci Yacine. Très bonne soirée à toi. Tu reviens quand tu veux sur RMC. Tiens, info d'un ancien Marseillais, André Ayew, qui était au Qatar à Al Sadd, a signé à Nottingham Forest ce soir. Voilà.
The English Charles Avignon.
Il retrouve la première ligne.
On se fait une mort subite de tous.
Caristeas, Vazidas.
On se fait l'été dernier. Il y a combien de transferts?
On se fait une mort subite de tous les clubs d'André Ayew, non?
Allez,
si tu veux, vas-y. Allez-y, les gars.
Marseille.
Très vite.
Swansea. Arles Avignon.
Lorient.
Il a joué avec un club turc, mais je sais plus lequel. Fenerbahçe. Et j'ai plus rien.
Ouais. Ah, Nottingham Forest.
Vous avez dit West Ham.
Al-Sadd, West Ham.
West Ham, c'est ça le palace.
Il reste Crystal. Quoi?
Il a joué avec son frère, avec Crystal.
Non, il a pas joué avec Crystal Palace. Swansea, on l'a dit.
Swansea, on l'a dit.
Fenerbahçe.
Fenerbahçe, on l'a dit.
Très bien. Nottingham Forest, Al-Sadd.
Ouais.
Marseille, Lorient, vous avez tout dit, les gars.
Arles-Avignon, prêté.
Ouais.
Prêté à Arles-Avignon également.
C'est là où il pète.
Précise quand tu dis. Il se blesse, tu veux dire, ou il explose?
Non,
il explose.
Ah, il a pas le terme.
C'est un terme pété. C'est un terme qui, voilà.
Nico,
qui revêt plusieurs.
Attention, Nico, sinon on te fait passer dans la
meilleure fois. T'as dit, je te mets en slip, là, t'as eu un peu de mal et tout, faudrait, voilà.
Ouais, Nico, encore un peu, tu passes à la demi-heure suivante.
Voilà.
Allez, les gars, dans un instant.
Nico est en train de péter en ce moment, Nico Jamin, il pète.
Voilà.
Bah, il en train de péter.
Non, se péter, c'est se blesser pour moi.
Ah non.
Oui, mais ça, là, on n'est pas sur un terme. Varane va-t-il manquer à l'équipe de France? Le débat à venir dans Génération After. On vous attend nombreux au 32-16-0-0. Entre le Real et Valence et la Juve qui en quart de finale de la Coupe d'Italie reçoit la Lazio 0-0 également après 25 minutes de jeu. À tout de suite sur RMC.
RMC 20h-22h Génération After.
Nicolas Jamin.
Génération After RMC 21h30 avec Oussem Loussaïef, Walid Acharchour et Sofiane Zouaoui. On est ensemble jusqu'à 22h. On parlera de Noël Le Graët également dans quelques minutes, qui a contre-attaqué après la remise du pré-rapport de l'audit de la Fédération Française de Football. D'abord les gars, bon, 0-0 toujours entre le Real et Valence en Liga. Pour l'instant le Real est toujours à 7 points du Barça. 0-0 également en Coupe d'Italie entre la Juve et la Lazio après 27 minutes de jeu. Raphaël Varane arrête donc l'équipe de France à 29 ans, ce qui nous a surpris certains. Qu'est-ce qui a motivé sa décision? Une envie de passer plus de temps en famille, un troisième enfant à venir également. Une usure mentale à cause d'un calendrier infernal. Il a pris un coup aussi, un psychologique, après la défaite en finale contre l'Argentine en finale du Mondial, bien sûr. Plus des problèmes récurrents au genou droit. Quand on lit cette liste-là, on peut comprendre en fait. Et on parle également d'un homme qui a commencé très tôt en équipe de France. Hein.
Plus de 90 sélections.
93 et 19 sélections.
Ans. Très fort au club aussi, 17 ans à Lens.
Il commence contre la Géorgie à 19 ans.
En 2012, ouais. On compte. Il y a plus de 10 ans.
Et après, il y avait eu ce match contre l'Espagne au Stade de France avec le Pogba et Varane titulaire, oui. 19 ans.
Il a 19 ans en équipe de France. Ouais. Appelez-nous 32-16, êtes-vous surpris? Et cette question surtout plus insidieuse, Raphaël Varane va-t-il manquer à l'équipe de France? Allez, c'est parti, je commence avec toi, Walid. Déjà réaction par rapport à l'annonce de sa retraite, surtout pas surpris.
L'annonce un peu surprenante quand même, un peu surprenante, ah ouais, parce que.
Vraiment, t'as été surpris?
Oui,
pas totalement en même temps, tu vois. Vas-y.
Ah, d'accord, bah, j'ai ma réponse, monsieur.
On te laisse parler. Vas-y.
Vraiment, t'as été surpris?
Affirme-toi, prends la parole.
Tu sais jamais.
Tu fais des réponses trop courtes en plus en général, il faut vraiment que tu t'affirmes maintenant.
J'ai pas assez de charisme, apparemment. Mais voilà, pour revenir sur ce que je disais, c'est que pour moi, j'étais quand même un peu surpris parce que.
Ah bon?
Ouais. Parce que voilà, de par son âge, je pensais qu'il allait au moins aller jusqu'à l'Euro, et surtout que voilà, Varane revient plutôt bien avec Manchester United. Il n'était pas en grande difficulté avant sa blessure. J'ai perdu ma voix.
Ah bon?
Tu
la récupères.
Bon, tout revient là.
Tout ça pour souvenirs. Varane.
C'est fou l'émotion. Okay. Je suis ému.
C'est pas grave.
Bon, je prends le relais pour les laisser boire de l'eau. Moi, la différence de Walid, je suis pas surpris pour tout ce que tu as énuméré. Ça fait un moment qu'il joue en équipe de France, plus de 90 sélections, 93, tu disais, ou 94.
13e joueur le plus capé de l'histoire.
Exactement. Et puis, on le voit depuis qu'il est tout jeune, l'usure physique, l'usure mentale fait. Donc, je suis pas du tout surpris. Je m'en doutais qu'il allait l'annoncer il fait partie de cette génération.
T'avais les infos, alors?
Non, mais même s'il est plus jeune que cette génération-là, que Giroud, mais il fait partie de cette génération. Giroud, Lloris, il est arrivé un peu plus tard, mais ils ont gagné ensemble, ils ont enchaîné les sélections ensemble. C'était logique, qu'il lâche la main. Et là, on rebondira sur la deuxième question que tu veux poser, parce que je pense qu'il a aussi constaté qu'il y avait du beau matériel derrière lui, et donc naturellement, humblement et intelligemment, je pense qu'il se dit
allez, ça y est, j'ai fait le tour, j'ai gagné des trophées. Il y a du talent derrière moi, autant les laisser progresser.
Non mais,
bravo.
Non mais ton analyse, moi je la partage totalement. Après, ça reste quand même, il faut y aller.
Il a enchaîné.
Il faut y aller prendre sa retraite à 29 ans.
Il a gagné.
Il y a des explications à ça et tes explications sont totalement plausibles. Mais à 29 ans,
qu'est-ce qu'il peut faire de plus en équipe de France?
Il a gagné un euro. Il l'a pas gagné.
Tu penses que
il peut ne pas s'en passer? Non mais Oussem, là t'es dans une forme de logique de pensée, c'est-à-dire tu te dis bon, c'est vrai quand on réagit par rapport à toi, l'usure, les matchs, les blessures qui commence à s'accumuler. Le truc, c'est que je trouve, moi, au contraire,
ça reste pas commun.
Moi, je trouve ça très surprenant.
Ouais, ça reste
je
pas commun.
Je trouve ça très surprenant parce que même si on prend en compte tout ce qui s'est passé dans sa carrière et le fait d'avoir commencé tôt, on parle d'un joueur qui est pas très loin des 100 sélections. On sait que il y a beaucoup de joueurs qui veulent atteindre ce cap-là. T'as quand même une compétition qui va vite arriver parce qu'on a eu la Coupe du Monde en hiver, donc t'as une compète qui va vite arriver. Tu peux te dire, allez, je tente de tirer jusque là. C'est un joueur qui a même pas passé encore la trentaine. On a quand même beaucoup d'exemples de joueurs qui tirent au maximum. Même sur les derniers mois, qui tirent au maximum sur leur physique et sur leur volonté d'aller de plus en plus loin dans la compète. Tu peux te dire aussi, écoute, moi finalement j'ai pas fini le jeu parce que ok j'ai gagné une Coupe du Monde, mais là je peux pas rester sur un échec comme ça en finale au tir au but.
Et puis moi je pensais aussi aux Jeux Olympiques.
Ouais.
Je me disais peut-être que 2024 Paris. Ça peut être aussi, tu vois, terminer. Parce que Sofiane a raison d'insister. C'est plutôt lucide.
Et intelligent
de sa part, mais on fait des débats toutes les semaines avec des anciens pros qui te disent que l'ego, le fait de marquer l'histoire.
T'as bien vu pendant sa carrière qu'il l'avait pas fait.
Bien évidemment. Mais donc, il faut le dire, il n'y a aucun souci.
C'est très intelligent de sa part.
Mais c'est sûr.
Pourquoi c'est intelligent?
Parce qu'il
a réussi il a constaté qu'il n'avait pas besoin de plus. Il est fatigué.
Oui, mais moi, sa décision est personnelle et même intime, je la comprends. Je la respecte à 200%. Intelligent, je sais pas.
Si, c'est intelligent de
se dire. Il est encore à la baston avec la succession, ça va?
Non, oui, mais il a encore la baston, mais lui quand il
se fait les gens se retirer parce que derrière il y a un incroyable
quand il communique, il le dit. Il dit il est temps aux jeunes de prendre leur place. Je trouve que c'est une forme d'intelligence, mais je pense qu'il faut vous enlever.
Ça reste surprenant dans le monde du football. Aujourd'hui, laisser la place aux copains en disant bon les gars, franchement, pas mécano,
ça c'est un peu une posture,
etc.
Non, c'est une réalité, c'est pas une posture. Et enlevez de votre tête son âge, parce que depuis tout à l'heure dans vos arguments, c'est il a pas passé 30 ans. Enlevez-vous ça de votre tête. Il joue depuis qu'il a 17 ans.
Qui joue depuis 17 ans.
Physiquement, il a plus que 30 ans. Il a gagné des Ligues des Champions. Il a fait des saisons à 60 matchs. Les gars, il a le droit.
Moi, attention sur le côté. Sur le côté communication par rapport à la concurrence. Moi, je me souviens pendant la Coupe du Monde, il y a eu beaucoup de sorties d'infos sur l'intégration des jeunes positifs dans ce groupe-là. Même les plus vieux disaient c'est incroyable parce qu'ils sont matures, ils prennent pas la place ou en tout cas ils le font de manière beaucoup plus. Alors qu'il y a une époque quand même, il y avait quand même un conflit entre jeunes et anciennes générations. Donc moi, je pense qu'il faut pas sous-estimer, et c'est pour ça que je crois que c'est pas une forme de communication. Un mec qui se dit, écoute, là, quand même, sur les dernières compétitions, 2016, j'arrive blessé, même si ça commence à dater. Cette saison.
Il joue pas 2016.
Oui, voilà. Et il joue pas parce qu'il est blessé à l'Euro 2016. Ouais. 2018, ok. Mais après, lors de cette Coupe du Monde, j'arrive blessé. Je suis quand même à un point, vous, avec Manchester United, j'ai raté en stade 25 matchs depuis qu'il arrive à Manchester United, ce qui est énorme. Et il y a quand même les petits, là, derrière. Est-ce que je suis assez frais pour me bastonner avec eux? Ils ont l'air intelligents, ils ont l'air bons et ils vont prendre la place sans que personne ne puisse dire grand chose et je risque de finir ma carrière à traîner la patte comme ça dans un groupe. Donc il y a aussi cette poussée à mon avis des jeunes qui est différente du passé, où le mec qui arrive à un âge où il sent qu'il peut plus aller au bout, il se dit peut-être
je suis, encore une fois,
ça me surprend.
Non mais je suis d'accord avec vous, tous vos avis et vos arguments sont bons, mais dans le monde du foot actuel ça reste surprenant, pour moi Deschamps, si Varane continuait et si Varane continue d'être performant avec Manchester United, autant les performances des nouveaux peuvent être très très bonnes. Je pense que Varane continuera à jouer en équipe de France. Donc lui,
c'est pour ça qu'il
il aurait pu continuer à être dans une réflexion bête et méchante, même s'il en avait pas envie. Je vais aller chercher le plus grand nombre de caps. Mais là où je le salue, il faut le saluer, c'est que il va décider de sa sortie. plutôt une belle sortie.
Exactement.
Et que contrairement à des légendes qu'on respecte, hein, bien évidemment, des légendes de notre enfance, de notre adolescence, mais des Lilian Thuram, des Marcel Desailly, qui ont été au bout du bout du bout, quitte à être ridicules dans certains matchs. Hein, je me rappelle de la Croatie en 2004, il me semble, des Pays-Bas en 2008 pour Lilian Thuram. Galas, Naïsna, un peu, même si c'était pas.
T'étais en 6ème C à l'époque, non, c'est ça?
Qui?
Toi, t'es en 6ème C.
J'étais en 6ème C, ouais. Merci à Jimmy Brown encore une fois dans le casque. Ça, je la reconnais. Mais voilà, ça, c'est plutôt honorable et il faut le dire. Même si pour moi, ça reste surprenant.
J'accueille Yanis au 32.
Ça reste surprenant.
Salut Yanis, et je repose la question surtout pour notre débat. Est-ce que Varane va-t-il manquer à l'équipe de France? Salut Yanis.
Bonsoir tout.
Salut Yanis.
Bonsoir à tous. Merci déjà de m'accueillir.
Mais très heureux.
Alors, j'ai écouté un petit peu vos arguments et c'est vrai, je suis d'accord avec vous là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est vrai que c'est une belle sortie compte tenu de son palmarès et de ce qu'il a pu faire en équipe de France. Maintenant, moi, il y a deux choses. Je pense sincèrement que, en tout cas à sa place, il y avait quand même, c'était quand même le vice-capitaine. Donc, je pense que c'était lui qui était placé, depuis l'annonce de la retraite de Lloris pour reprendre le capitaine en équipe de France.
Ouf, oui.
Et à 29 ans, je pense qu'il avait une passation encore devant lui avec la jeunesse qui n'est pas terminée, qui n'est absolument pas terminée. Aujourd'hui, aucune certitude encore sur la défense centrale en équipe de France et je pense que Varane aurait pu aller chercher encore l'Euro pour accompagner justement la jeunesse en équipe de France. Autre chose, vous aviez aussi évoqué le nombre de matchs qu'il effectue par saison. Depuis son départ du Real, il n'a jamais fait une saison pleine. Donc, des saisons en 60 matchs, je pense que ça ne lui est pas arrivé depuis son départ du Real Madrid. Ensuite...
Oui, mais il est blessé.
Il y a un truc qui est pas...
Laissez-le, Yanis. Oui, je suis 100% d'accord avec vous. Il est blessé. Pour preuve, il a été blessé longtemps avant la Coupe du Monde et il nous sort quand même une Coupe du Monde. Je pense que personne ne l'attendait à ce niveau-là. Voilà. Et autre chose, on parlait également de la génération qui est arrivée très tôt en équipe de France. Griezmann en fait partie aussi, et je pense qu'il n'est pas, il n'est pas annoncé sur le départ en équipe de France. Donc, je trouve ça vraiment dommage, et j'espère que son départ, en tout cas de l'équipe de France, sa retraite anticipée, ne va pas non plus donner des idées à certains autres joueurs de sa génération. Et c'est dommage qu'il y avait quand même ce noyau qu'on connaissait, donc entre Lloris et Varane, c'était quand même des personnes importantes du vestiaire de l'équipe de France et qui ont décidé de prendre leur retraite.
C'est vrai.
Voilà. En même temps, moi personnellement, ça m'interroge quand même un petit peu sur peut-être
dommage que le sélectionneur n'ait pas eu le même raisonnement.
Absolument. Ouais, ça m'interroge quand même de perdre aujourd'hui à la fois Varane, à la fois Lloris, Mandanda également qu'on oublie de citer, mais était quand même quelqu'un d'assez respecté, écouté et important dans le vestiaire, même si évidemment son âge justifie son départ. Donc je trouve ça vraiment dommage de perdre ce noyau-là qui était quand même hyper important en équipe de France.
Yannis, c'est un truc paradoxal dans ce que tu viens de dire, parce que tu veux que Raphaël Varane reste pour faire la transition avec la nouvelle génération jusqu'à l'Euro, et après l'Euro, si admettons qu'il arrête à 32 ans, 31 ans, qu'on dise c'est bon, maintenant on peut installer. Donc t'as 2 ans pour préparer une charnière centrale de l'Euro à la Coupe du Monde. Moi je pense que ça a été très intelligent de sa part de le faire maintenant. Comme ça, si tu te projettes pour une Coupe du Monde, t'as 4 ans pour préparer une défense centrale avec du matériel, comme tu le disais, et là je te rejoins, qui est quand même assez performant et qui joue titulaire dans les plus grands clubs européens, je le rappelle.
Autre chose les gars, est-ce que ça vous émeut, Raphaël Varane, titulaire, champion du monde 2018?
Toi, tu veux parler de son charisme?
Non, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a une forme de nostalgie, de tristesse quand il annonce sa retraite?
Non. Mais non, mais c'est pas un mec qui t'a fait rêver.
Non, je vous pose la question.
Est-ce que c'est un mec qui t'a fait rêver sur le terrain?
On parle d'Atelier 2018.
Oui, mais est-ce qu'il t'a fait rêver?
J'ai à peu près la même sensation.
Moi, c'est la question que je vous pose, les gars. Voilà, moi, c'est à peu près.
À peu près. Un peu plus que Lloris.
Peut-être moi, un peu moins que Lloris, d'ailleurs.
Mais tu sais.
Hein, on est d'accord, hein.
Non, faut Varane à Lloris, moi.
Ok.
Mais le problème, Nico, c'est qu'on s'en rend compte.
Là, je parle d'humain. D'émotion.
Oui, d'accord. Mais moi, Varane, pour moi, la Coupe du Monde que Varane fait en 2018, elle est extraordinaire.
Oui.
Et la performance, ça restera.
Il bonifie même Umtiti.
Ça restera l'une des grosses performances d'un défenseur central français dans une Coupe du Monde. On en parlera. Moi, je continuerai à en parler, en tout cas, aux gens à l'avenir. Maintenant, le problème, c'est quoi, Nico? C'est qu'on va s'en rendre compte très, très vite. C'est que tous les mecs qui vont arrêter. Qui ont joué sous Deschamps, Il y en a très très peu qui subjectivement vont nous faire quelque chose.
Peut-être Pogba.
On va reconnaître.
Griezmann,
c'est la réalité.
Peut-être que les jeunes, les plus jeunes.
Alors peut-être. C'est intéressant.
Peut-être. Et après, il y aura Mbappé, bien évidemment différent. Mais il y en aura beaucoup où on respectera en disant. Ah, c'est extraordinaire, bravo. C'est
bravo, voilà, mais il n'y aura pas à l'armichette.
Voilà, bravo.
Mais quelque par chose contre Deschamps.
Ce sera différent des anciennes générations, je pense. Hein.
Après, peut-être une question d'âge aussi. Moi, j'ai connu 98. À chaque fois que les mecs partent à la retraite, il y a une émotion. Parce que c'est la première fois aussi. Parce que, je sais pas, on avait un lien plus direct.
Mais le style de jeu fait que aussi.
Yanis, pour le mot de la fin, Yanis.
Non, j'ai rien du tout. J'ai deux exemples. Donc, il y a le premier avec Lloris, effectivement, personne n'a plus capé en équipe de France, capitaine, etc. Donc, son départ, il a fait la une des journaux le lendemain, il avait donné une interview, ça a provoqué quelques réactions, et aujourd'hui, il est tombé aux oubliettes. Mais il y a un exemple, et je pense qu'on oublie de parler de quelqu'un, c'est N'Golo Kanté, pour corroborer les propos de Walid, qui dit qu'effectivement, cette génération-là, elle va tomber un peu aux oubliettes après
je dirais pas aux oubliettes, ce serait leur manquer de respect.
T'as dit ça. Oui, absolument.
Je dis juste que subjectivement, dans l'aspect foot, qu'ils vont nous laisser, on sera pas comme des dingues, quoi.
Au même titre que la génération 98, par exemple. Mais N'Golo Kanté, donc, qui ne joue plus depuis pratiquement deux saisons, il a bénéficié d'une médiatisation incroyable en 2018. Il a gagné le cœur de tous les Français. Et aujourd'hui, plus personne ne parle d'N'Golo Kanté lorsqu'on évoque que ce soit son avenir en club ou en sélection. Donc je suis absolument d'accord avec Walid. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit. C'est pas une génération qui va marquer, les esprits.
Ça n'a rien à voir avec Zidane, Vieira, Blanc. Ces mecs-là, quand ils arrêtaient l'équipe de France,
on parle de charisme aussi, les gars.
On n'était pas bien.
Yanis, merci Yanis.
Avec plaisir.
Tu reviens quand tu veux.
Salut Yanis.
Salut sur RMC dans Génération After. Je rappelle que Varane a fait toute sa carrière en bleu sous Deschamps. Voilà.
C'est ça.
Non, mais quoi, un full problème avec Varane.
Moi, j'ai rien. Mais alors, vraiment, j'aime beaucoup Varane, le défenseur.
Oui.
Soit au Real Madrid ou en équipe de France, mais voilà, il est affilié à un style, à quelque chose. Voilà,
un problème. C'est l'homme de Deschamps. Hein.
Oui, c'est Varane. C'est Varane. Il a un problème avec lui.
Allez, 0-0 entre le Real et Valence après 42 minutes de jeu. 43 minutes de jeu, 0-0 entre la Juve et la Lazio en quart de finale de la Coupe d'Italie. On revient dans un instant. Attention à venir. La vie de Igor Zouaoui. Technico-tactique.
T'inquiète pas, j'arrive.
Reste avec nous.
Régis Zouaoui.
Sofiane Saki.
RMC 20h-22h Génération After.
Nicolas Jamin
avec Sofiane Zouaoui, Walid Acharchour et Oussem Loussaïef. Reste avec nous à 22h. Gilbert, Daniel, Coach Courbis, Manu Petit prendront le relais pour un After très
ils sont pas là, je les ai pas
singulier, croisés, très particulier. Ils sont pas là, c'est normal.
J'ai vu sur Twitter comme quoi il y en avait qui se...
Vas-y,
qui faisait des estimations.
Vas-y.
Estimations.
Il essayait de trouver. Des... Ouais. Il y avait eu un tweet.
Alors, il y a eu un tweet, à ce qui paraît, ils sont peut-être chez Marco Verratti. C'est pas ça.
Le restaurant de Marco Verratti non plus. Il y en a qui attendent devant, là.
C'est la classe, Marco qui a pris, après tout ce qu'il a pris dans l'after. Il est reçu, Daniel. Je t'invite à mon restaurant, fais l'émission sympa.
Et qui parle avec lui, etc.
Et qui leur fait une pizza.
Je pense que Daniel, il serait aussi
vénère. Et à la fin, Daniel, il fait désolé, je me suis trompé.
Ouais.
Mais ta pizza est mauvaise.
Daniel pourrait dire c'est pas toi le problème, Marco. Exactement. Ceux qui parlent de toi.
Allez les gars, 0-0 toujours entre le Real et Valence, 0-0 entre la Juve et la Lazio. C'est l'heure de l'avis de notre intervenant tacticien.
Ouais. T'inquiète pas.
Sofiane Zouaoui, jingle Sofiane.
Donnez-lui le diplôme. Est-ce que pour toi, à ce moment-là, il est ballon d'orisable, entre guillemets ballon d'orisable, mais il devient ballon d'orisable. Si on parle d'un objectif ballon d'orisable, il devient ballon d'orisable.
Je vous conseille un montage ou c'est... Ouais.
Non, je l'ai dit, mais
ça pas... reste un montage. Mais c'était quand même assez ramassé. Ouais, hein, ça s'est fait en 1 minute 30.
Avant que Sofiane commence...
D'ailleurs, là, je vais dire système à 3, 50 fois, hein, je vous le dis. Préparez bien.
Avant que Sofiane commence, je vous conseille la photo de l'entraîneur Sofiane Zouaoui à Football Manager. Ouais. Elle est complètement dingue et je pense que.
Elle me ressemble plus que je me ressens.
Ouais. Ça a été proposé par le jeu ou c'est toi qui l'as modélisé?
Avec ma tête, quoi.
C'est ouf.
Modélisé.
Bravo Manager qui
le système à 3 favorise avec les bons matchs de Ligue 1. Sofiane, t'écoute.
Tout à fait. Écoute, je me suis fait cette réflexion hier en regardant le match entre Lens et Nice où on avait deux systèmes à 3 opposés. Et puis je me suis fait cette réflexion aussi en me disant, mais quel match Sofiane t'aime le plus en Ligue 1? Et c'est très souvent que ça tombe sur Lens et l'Olympique de Marseille notamment qui joue à 3 derrière. Après, évidemment, faut faire très attention avec ce débat-là. C'est que le dispositif, c'est pas ce qui compte forcément, c'est les intentions. Didier Digard l'a rappelé hier, d'ailleurs, en conférence de presse. Mais il y a un truc très naturel dans le système A3 qui, je trouve, favorise le spectacle et le côté spectaculaire des rencontres. Déjà, quand tu prends le système A3 sur son organisation sur le terrain, si tu es face à un système A3, tu es sur un système individuel, c'est-à-dire un contre un sur toutes les zones du terrain pratiquement, mais même face à un système A4 par exemple, un 4-3-3, tu te retrouves avec les trois attaquants face aux trois défenseurs, tu te retrouves avec les pistons face aux deux latéraux. En gros, ce système-là favorise les 1 contre 1 et favorise l'effet vague offensive dans une équipe, même si évidemment, il faut que ce soit positif dans l'approche. Il y a un truc aussi dans ce système qui est pour moi très spectaculaire si tu l'utilises bien, c'est que tu as 7 joueurs potentiellement dans le camp adverse, que ce soit pour le pressing ou le contre-pressing. Je trouve que ça favorise aussi le fait de jouer haut, de récupérer le ballon haut. Qu'est-ce qui est bien aussi par rapport à ce système qu'on voit de plus en plus en Ligue 1, c'est que moi, quand j'étais plus jeune, je pensais que plus tu jouais avec des attaquants et des milieux de terrain, plus tu étais dangereux. Aujourd'hui, c'est plus la notion de joueur lancé. Dans un système à 3 aujourd'hui, tu as les pistons qui sont capables d'être lancés et tu as également les numéros 8. On l'a vu avec Lens, avec Fofana notamment. Les pistons, on les a avec Klos à l'époque, avec Lens, aujourd'hui avec l'Olympique de Marseille. Mais il y a un truc qui diffère du système A4 de base, c'est que les défenseurs centraux, et on le voit aujourd'hui avec l'Olympique de Marseille, notamment avec Gigot et Balerdi, c'est que les mecs, ce sont maintenant des joueurs offensifs. Tu les retrouves devant la surface de réparation. Gigot, Balerdi le font à l'Olympique de Marseille. À Lens, tu avais à l'époque Loïc Badé et Gradit qui étaient les joueurs qui gagnaient le plus de ballons, de mettre balle au pied.
Depuis donc, deux ans, c'est Medina quand même.
Oui, et aujourd'hui Medina. Et je trouve que ce côté spectaculaire, ce côté un peu fouillis d'apparence, favorise les matchs comme ça dingues qu'on peut voir de plus en plus. Et il y a aussi une autre donnée qu'il faut mettre en avant, c'est que là j'ai parlé des aspects plutôt positifs, mais il y a évidemment des aspects négatifs, mais là aussi ça va dans le côté spectaculaire. C'est-à-dire que si tu as un adversaire qui est capable de sortir de ton premier pressing ou contre-pressing, il se retrouve au final avec une attaque où il se retrouve à 3 contre 2, 3 contre 1 ou en tout cas sur des zones individuelles en transition défensive. Donc je dis pas que le système A3 c'est forcément mieux que le système A4, parce que A4 tu peux aussi avoir des matchs très spectaculaires. Je dis juste dans le côté naturel, disposition des joueurs et puis volonté aussi des coachs qu'on voit du côté de Lens, de Marseille, et puis qu'on a vu de base, moi je l'avais découvert notamment avec l'Atalanta et Toloi qui se projetaient devant. Je trouve que c'est un système parfait pour le spectacle, vraiment. Et donc plus on l'utilisera en Ligue 1 et plus on l'utilisera bien en Ligue 1 de manière positive, plus à mon avis on favorisera les belles rencontres.
Qui crée un déséquilibre assumé également. Quelqu'un veut réagir ?
Oui, le déséquilibre aussi il peut être il peut te faire courir à ta perte, puisque quand on regarde un peu les points négatifs de l'effectif de Marseille, c'est qu'il y a d'énormes boulevards au sein de leur défense. Alors on peut dire que c'est peut-être à cause des individualités, comme certains le disent, des joueurs qui sont pas au niveau, mais c'est aussi parce que c'est un fromage, un bon gruyère avec des trous. Mais ça, c'est le risque que tu prends.
Il faut l'assumer, ouais.
C'est ça, c'est assumé. Et c'est moi, ça me dérange pas que ce soit assumé. Je suis d'accord sur l'aspect spectacle, mais là où je rejoins pas ton avis, Sofiane, c'est que pour moi le football va au-delà de la combinaison. C'est plutôt, est-ce que tu disais même au début de ton avis, c'est l'animation qui fait ta production. Ça peut être un 4-4-2 qui soit assez productif. Là, hier, par exemple, Rennes nous a remis au goût du jour le 9,5, ce qu'on voit très rarement depuis quelques années, mais c'était un 4-4-2 avec un Désiré Doué en position de 9,5. Et il y a quand même une animation. Je pense que c'est ce que tu demandes. Et c'est vrai que je suis totalement d'accord sur ton analyse tactique. Oui, de jouer à 3 permet de se projeter plus haut, d'occuper une plus grande surface de terrain, notamment chez l'adversaire. Oui, ça te permet d'être à la gorge, à la perte de balles. Mais moi, je suis désolé. Et avec tous les joueurs que j'ai pu discuter qui ont joué contre le Barça de Guardiola, c'était un 4-3-3. Et je peux te dire qu'à la perte de balles, ils te mangent. Le Walid Regragui, qui est venu ici il y a quelques jours, il nous disait qu'à la perte de balles, l'harcèlement des Espagnols était incroyable. Et Walid en était témoin, parce qu'on en a discuté aussi après l'émission. Il te dit que c'était incroyable parce qu'il savait ce qu'il voulait faire. Et je pense que plus que la combinaison et le choix tactique que tu mets en place, c'est surtout l'animation et ce que tu fais.
La intention. Il y a quand même une petite diff entre le 4-3-3 et le système à 3, c'est que dans un système à 3, tu ne peux pas être attentiste. Parce que si tu es attentiste, tu te retrouves avec 7 joueurs ou 5 à 6, 7 joueurs dans ta partie de terrain et tu es dominé. Là où je trouve que ça t'impose, et d'ailleurs c'est pour ça que c'est aussi caricatural par moment dans la façon de l'animer, où tu te retrouves avec des défenseurs centraux dans la partie adverse, c'est que si c'est comme le concept du requin. Le requin, s'il s'arrête de nager, il meurt. Donc c'est exactement le même concept avec ce système-là. Aujourd'hui, je le trouve très intéressant, et notamment en Ligue 1, parce que si tu es attentiste, tu n'auras rien, donc tu peux pas être dans un entre-deux. Et c'est là qu'il y a une différence, je trouve, quand même, avec un système à 4.
Mais le 4-3, ça dépend de tes joueurs aussi. C'est pour ça qu'on en revient toujours à l'animation et aux joueurs.
Bien sûr.
Que ce soit Manchester City, citons les plus grands exemples, ou le Barça, une fois que tu as fait comprendre à tes latéraux, moi je me rappelle de cette fameuse phase de Guardiola lorsqu'il recrute Ederson et qu'il explique à ses joueurs, et ça, Walid, on en a souvent discuté, quand il leur dit, moi je recrute ce joueur-là pour ça, parce qu'il arrive à toucher avec précision les trois de devant à qui il demande de rester devant pour créer tout de suite le surnombre si tu relances court ou si tu relances long. C'est aussi ça le ce que tu proposes, c'est là où l'identité du coach. Et moi, au-delà du dispositif, un homme comme Igor Tudor par exemple, je pense qu'il propose bien plus qu'une composition d'équipe. Quand tu vois l'attitude de Nuno Tavares qui rentre dans l'axe, ces gens-là, et bien moi je suis d'accord avec toute ton analyse tactique, mais je trouve bien au-delà du
finalement
composition
ils
technique.
sont très peu en 3-4-3 l'Olympique de Marseille en phase offensive, parce que ça bouge énormément,
bien
il y a
sûr,
beaucoup de permutations.
Des zones,
la même chose pour le RC Lens, et c'est intéressant en fait de faire ce débat ce soir, parce que hier j'ai eu une discussion avec Will Steele à la fin du match. Fallait que je la place ce soir. Je suis désolé. Il me parlait
de
ce changement de système de jeu, parce que avec Oscar Garcia il jouait à 3 notamment derrière, et il est repassé à 4 depuis 2-3. Depuis 2 mois, et c'est ça qu'en fait c'est qu'une histoire d'intention.
Exactement.
Parce que lui il le répète à plusieurs reprises, il dit que pour lui dans une défense à 3 notamment, il y a beaucoup trop de joueurs spectateurs. Et lui, ce qu'il voulait, ce qu'il demandait à ses joueurs, c'est que tout le monde participe. Et il estimait que dans un système beaucoup plus asymétrique en 4-2-3-1, que beaucoup plus de joueurs étaient concernés par la perte du ballon et par la création quand cette équipe-là avait le ballon. Et quand on regarde bien, mais bien évidemment que Sofiane a raison, que quand le 3-4-3 ou le 3-5-2 est très bien maîtrisé, c'est extraordinaire. Mais comme tous les systèmes finalement, parce que le 4-4-2 Rennais l'année dernière, c'est l'équipe de la Ligue 1 sous Genesio, et ça marche très très bien, et l'animation, les intentions sont très très bonnes. Tu prends l'année dernière en Ligue des Champions, 4-3-3 de Liverpool, 4-3-3 de Manchester City, 4-3-3 du Real Madrid, ça a donné des matchs spectaculaires. Donc finalement, si je suis pas sûr moi qu'il y a des exemples, des contre-exemples dans n'importe quel système. Tout dépend des intentions du coach, comment il s'adapte surtout aux qualités de son effectif
et au profil
de son effectif. Et derrière, on peut avoir un rendu grandiose dans beaucoup de systèmes, et pas forcément que dans le 3-5-2.
Voilà pour l'avis de Sofiane. C'était un bon débat, les gars. Tiens, avant de nous quitter, quelques infos concernant Noël Le Graët. Vous le savez, qui est mis en retrait depuis le 11 janvier dernier. Il n'a pas encore réagi directement au pré-rapport de l'Inspection Générale de l'Éducation, du Sport et de la Recherche, qui faisait état notamment de comportements problématiques vis-à-vis des femmes, qui peut être qualifié au minimum de sexiste. Hein, c'est ce que dit le pré-rapport. Ses avocats contre-attaquent. Ils parlent d'un rapport aux allures de réquisitoire, un procès en légitimité. Il va défendre fermement son honneur. Voilà, il va se battre, Noël Le Graët, qui encore à la fédération. Il a encore le droit d'aller dans son bureau, d'observer, à défaut d'être actif en tant que président de la Fédération Française de Football.
Ça doit être spécial quand même.
Très particulier. Ouais,
de pouvoir aller dans son bureau avec.
Il est têtu. Il veut pas trop lâcher l'affaire pour l'instant. Allez, reste avec nous. La suite de l'after dans un instant. C'est maintenant avec Daniel, coach Courbis, Manu Petit. After événement ce soir. Merci les gars.
Surprise.
Merci à toi, Nico. Bye bye.